Radio Prague, les informations.
Les députés tchèques approuvent une partie de la réforme du système de santé. 390 ans depuis l'exécution des 27 seigneurs tchèques, place de la Vieille Ville. Et l'écrivaine Věra Lenhartová est lauréate du prix FX Chalda. La chambre basse du Parlement tchèque vote ce mardi la réforme du système de santé préparée par le gouvernement et a déjà approuvé une partie de celle-ci. La nouvelle législation prévoit la mise en place d'un système de santé standard pourvu par l'assurance publique et un système de santé parallèle proposant plus de services pour les personnes prêtes à plus cotiser. La réforme prévoit une augmentation du tarif lors de séjours hospitaliers ainsi que celui des consultations médicales. Avec 115 sièges sur 200 à la chambre basse, la coalition gouvernementale a décidé de procéder au vote en dépit des protestations des syndicats tchèques. Après l'échec des négociations de la commission tripartite lundi, les syndicats ont prévu de se retrouver mercredi pour discuter de la suite à donner à leur mouvement de protestation. Un soldat tchèque basé dans l'équipe de reconstruction de la province de Logar en Afghanistan a été légèrement blessé lors d'une explosion. L'incident s'est produit mardi matin sur un site d'entraînement près de la base militaire de Chank. Une porte-parole de l'état-major tchèque a déclaré que le soldat avait été blessé à la jambe par des éclats de shrapnel et qu'il était soigné dans une base avoisinante. Il doit ensuite être transféré à l'hôpital militaire de Kaboul. Ce 21 juin, 390 ans se sont écoulés depuis l'exécution des 27 seigneurs tchèques protestants, meneurs de l'insurrection contre le pouvoir catholique, place de la Vieille Ville à Prague. Cette exécution, datée de 1621, marque la fin de l'indépendance des pays tchèques, la reprise en main définitive du pouvoir par la dynastie des Habsbourg et la recatholicisation du pays pour plusieurs décennies. Et puis, je vous le disais dans les titres, ce mardi, l'historienne de l'art et essayiste tchèque, Věra Lenhartová, recevra le prix FX Chalda pour l'année 2010. Installée en France depuis des années, mais Věra Lenhartová est récompensée pour son ouvrage Soustředné kruhy, publié aux éditions Torst l'an dernier. Le prix récompense en général la qualité d'une critique artistique, une édition exceptionnelle ou un travail d'histoire de l'art. La société FX Chalda a repris ses activités en 1990 après 40 ans d'interdiction. Ce 21 juin commence le Festival des théâtres européens à Hradec Králové. Pour cette 15e édition, 220 spectacles sur une vingtaine de scènes sont prévus. De nombreux chapiteaux et tentes compléteront le programme principal de ce festival consacré aux arts vivants. Des troupes venues de plusieurs pays d'Europe sont attendues. Parmi elles, la compagnie Irina Brook, la fille de Peter Brook, qui présentera le 27 juin son spectacle Somewhere La Mancha, librement inspiré du Don Quichotte de Cervantes. Le Festival des théâtres européens s'achèvera le 30 juin. Et puis, depuis le début de la construction du tunnel Blanka, qui doit désengorger une partie de la capitale tchèque, les archéologues tchèques ont déjà découvert 70 tombes remontant à la fin du 9e siècle jusqu'au début du 10e siècle de notre ère. Plusieurs de ces tombes, situées non loin du château de Prague, contenaient également des bijoux, des couteaux et des objets en céramique. Ces sépultures étaient inconnues auparavant et les archéologues estiment qu'il s'agit là d'une découverte importante. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Pavla, le temps en République tchèque sera nuageux à couvert. Les températures maximales se situeront entre 25 et 29 degrés. De violents orages doivent frapper le pays dans la journée. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobliden, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord l'aide de l'Union européenne à la Grèce au bord de la faillite. Quoique réticente, la République tchèque pourrait malgré tout participer à cette aide. Plus de détails dans quelques instants. Nous parlerons football également avec un reportage sur le Dukla de Prague. L'ancien club de l'armée communiste sera de retour dans l'élite tchèque la saison prochaine. Un événement qui n'est pas passé inaperçu et qui n'est pas sans déplaire aux amoureux de sport en République tchèque. Et puis la rubrique du jour sera consacrée à la seconde partie de l'entretien avec Stanislas Pierret, l'actuel directeur de l'Institut français de Bucarest en Roumanie, évoquera ses années passées dans les réseaux dissidents tchécoslovaques, au début de sa carrière diplomatique. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. On On commence donc avec de l'économie. La République tchèque pourrait participer à l'ensemble des mesures préparées par l'Union européenne pour aider la Grèce qui se trouve au bord de la faillite. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, en commentant les négociations des ministres des Finances de la zone euro réunis dimanche et lundi à Luxembourg. Le ministre tchèque a toutefois également manifesté une certaine réticence de la République tchèque à participer à cette opération de sauvetage envisagée par l'Union européenne. Plus de détails avec Václav Richter.
D'après les récentes déclarations de Miroslav Kalousek, la participation tchèque à une nouvelle aide à la Grèce pourrait prendre la forme de garanties pour les crédits alloués à ce pays, et son montant atteindrait 3,5 milliards de couronnes, 146 millions d'euros. Prague se montre cependant plutôt réticente vis-à-vis de cette possibilité. La Tchéquie ne faisant pas partie de la zone euro, le ministre estime que l'aide à la Grèce devrait être financée par le fonds de sauvetage de l'euro, donc sans la participation de la République tchèque, et non pas par le fonds de sauvetage européen, c'est-à-dire avec la participation de l'ensemble des pays de l'Union.
Je suis très réservé quant à l'utilisation des moyens du Fonds de l'Union européenne, ce qui concerne aussi notre pays. Si l'on me demandait mon opinion, je dirais que le gouvernement tchèque est très réservé et que je n'ai certainement pas le mandat pour promettre notre participation.
Au cas où elle participerait quand même à ces mesures de sauvetage, la Tchéquie se porterait donc garante d'une partie des crédits alloués à la Grèce par le mécanisme européen de stabilité financière, organe qui ne réunit pas seulement les membres de la zone euro, mais tous les pays de l'Union. Bien qu'il mette l'accent sur la réserve tchèque vis-à-vis de la nouvelle aide à la Grèce, le ministre ne cache pas que le problème grec ne concerne pas que ce pays et qu'il est potentiellement dangereux pour l'ensemble des membres de l'Union européenne.
L'aide internationale ne sauve pas que la Grèce, elle sauve la monnaie de la zone euro et aussi les systèmes bancaires de toute une série de pays. Les grands établissements financiers belges, français et allemands ont accordé des crédits à la Grèce et la dévaluation des obligations grecques entraînerait de grands problèmes pour les banques dans ces pays.
Les problèmes économiques de la Grèce ont été commentés aussi par le président de la République, Václav Klaus, qui est, comme on le sait, un grand critique de l'euro et de la politique financière de l'Union.
Quelque chose doit se faire. Cela ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas vrai, en aucun cas, que même si l'on ne faisait rien, la Grèce en sortirait finalement. Ou bien la Grèce reçoit une aide gigantesque, et je ne sais pas qui serait prêt à la lui accorder, ou bien elle doit quitter la zone euro, commencer à vivre sa propre vie et revenir à sa propre monnaie, le drachme par exemple. Ce que je dis n'est en aucun cas ma recommandation, je ne fais que constater, en tant qu'économiste, qu'il n'y a pas de troisième voie.
Sans être membre de la zone euro, la République tchèque s'est déjà portée garante de crédits de 320 millions d'euros pour le Portugal et de 279 millions d'euros pour l'Irlande. Cependant, ces crédits seront probablement récupérables avec moins de problèmes que l'aide accordée à la Grèce.
Les grands clubs ne meurent jamais, ont l'habitude de dire les commentateurs sportifs. En République tchèque, le Duklat Prague en est le parfait exemple. 17 ans après une mort clinique, conséquence de l'effondrement du régime communiste, le Duklat, ancien club de l'armée tchécoslovaque, retrouvera l'élite du football tchèque la saison prochaine. Une véritable résurrection pour un des grands clubs européens des années 1960 à 80, mais aussi un des clubs les plus détestés du public tchèque. Onze titres de champion, 9 coupes de Tchécoslovaquie, des demi-finales de Coupe d'Europe et quelques-uns des meilleurs joueurs tchèques de la seconde moitié du XXe siècle passés dans ses rangs. Créé en 1948, au lendemain de la prise du pouvoir par le régime communiste, le Duklat Prague, d'abord baptisé Club d'éducation physique de l'armée à ses débuts, est devenu, en l'espace de 40 ans jusqu'à la révolution de velours en 1989, un des clubs les plus titrés du football tchèque et tchécoslovaque. Mais en tant que privilégié, aussi un des clubs les plus détestés, les meilleurs jeunes joueurs du pays étant alors contraints de passer par le Duklat pour poursuivre leur carrière, comme l'explique l'actuel directeur sportif Günther Bittengel, lui aussi ancien joueur du Dukla à la fin des années 1980.
Tak bylo to daný.
C'est l'époque qui voulait ça. Le service militaire était obligatoire et un tas de gens ne comprennent pas que pour un jeune sportif prometteur, il valait mieux aller au Dukla que de finir dans un char, un hélicoptère ou à surveiller les frontières avec un chien et un fusil. Pendant les deux années de leur service passé au Dukla, ces jeunes sportifs avaient la possibilité de progresser avec des entraîneurs de qualité. Cela aurait été aussi dommage pour le sport tchécoslovaque dans son ensemble de ne pas développer le talent de ces jeunes. Et puis beaucoup d'entre eux retournaient ensuite dans leur club d'origine. Le Dukla a donc formé un nombre incalculable de bons joueurs et de sportifs pour tout le pays, mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte.
Parmi les dizaines de joueurs qui ont fait la légende du Dukla, un nom ressort plus que les autres, Josef Masopust. Plus de 40 ans avant Pavel Nedvěd, Josef Masopust, qui fête cette année ses 80 ans, a été le premier footballeur tchèque et de l'Europe de l'Est à recevoir le Ballon d'Or France Football, décerné au meilleur joueur européen. C'était en 1962, année qui vit la Tchécoslovaquie de Masopust s'incliner en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Correspondant du magazine France Football en République tchèque depuis de nombreuses années, Stanislav Rabie dresse en quelques mots le portrait de celui qui fut élu footballeur tchèque du XXe siècle et dont le nom reste aujourd'hui encore d'abord lié à celui du Dukla de Prague.
Le grand clan Ota Pavel a écrit Masopust, c'est bizarre, pas de Bitter, pas de Rapide, c'était manager, de organisateur, c'est un chef. Technicien, Pelé a dit, ce n'est pas possible, c'est européen, c'est d'origine tchèque, c'est brésilien. Pourquoi n'est-ce pas Minou, comme Didi, Garincha, c'est brésilien, c'est techniquement la même chose. Masopust, grand technicien, amener du jeu.
Un demi-siècle plus tard, loin de ces glorieuses années 1960, le Dukla de Prague renaît de ses cendres après bien des turbulences. En 1994, tout d'abord, 5 ans donc après la Révolution, le club, financièrement aux abois, est relégué administrativement en 3e division et abandonne, contraint et forcé, le football professionnel. Repris par un homme d'affaires slovaque, le Dukla déménage ensuite à Příbram, à une centaine de kilomètres au sud de Prague, perdant ainsi tout contact avec ses derniers fidèles et sa tradition. Parallèlement, la formation de jeunes joueurs se poursuit cependant à Prague, une équipe senior amateur réapparaît même au début des années 2000. Et après 10 ans de progression continue, à l'issue de la saison écoulée, le Dukla retrouve enfin l'élite, le Sparta et le Slavia notamment, ces deux grands rivaux historiques à Prague pour des derbies qui font déjà saliver les amateurs de football. Mais pour Günther Bittengel, cette montée en première division possède d'abord une forte valeur symbolique.
C'est un tournant historique dans l'évolution de la tradition du club, parce qu'au fond, le Dukla en tant que tel avait bien disparu. S'il n'y avait pas eu quelques passionnés pour continuer à s'occuper de la formation des jeunes pendant les années creuses, il n'y aurait plus de Dukla depuis longtemps déjà. Pour tous les gens qui ont le Dukla dans le cœur, ce renouveau est même un miracle, je dirais. C'est quelque chose d'incroyable pour les anciens joueurs comme pour les joueurs actuels et tous les supporters.
Avec 20 buts inscrits qui ont fait de lui le meilleur buteur de la 2e division, Daniel Chigou est justement un de ces joueurs actuels qui ont grandement contribué à la remontée du Dukla cette saison.
On n'a pas effacé l'histoire de cette équipe. C'est ça qui me fait tellement plaisir, de pouvoir écrire une histoire dans ma carrière footballistique, que j'ai fait monter un club qui a eu des ballons d'or. Donc ça me va tout droit au cœur.
Même si la riche histoire de son club pourrait laisser indifférent Daniel Chigou, l'attaquant camerounais n'est pas insensible au sort et au destin du Dukla qu'il connaissait déjà avant d'arriver à Prague, voilà 2 ans de cela.
Je connaissais bien Dukla parce que Pavel Nedvěd a été ici et quand j'ai joué en Italie, dans une émission sportive, et on l'a posé la question dans quelle équipe il a évolué. Il a parlé de Sparta, il a parlé d'abord de Dukla, de Sparta. Donc c'est des clubs qui l'ont lancé avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, et je connaissais déjà un peu l'histoire que c'était l'un des bons clubs historiques d'ici, parce que je me rends compte qu'ils ont 2 ou 3 ballons d'or, ils ont des bons joueurs, beaucoup de joueurs talentueux sont passés ici.
Bien que transformé en société anonyme, totalement indépendante des deniers publics, le nom du club de football du Duklat de Prague reste aujourd'hui encore pour le grand public, d'abord associé à celui de l'armée et du ministère de la Défense. Un lien avec le passé que les dirigeants ne veulent pourtant pas rompre, bien conscients que malgré des perspectives d'avenir a priori prometteuses, l'histoire et la tradition du club restent sa principale valeur ajoutée. Et tant pis si le Duklat ne sera jamais le club favori des Pragois. Voilà, c'est déjà la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Comme tous les 15 jours, on retrouve maintenant la rubrique Panorama, une rubrique consacrée aujourd'hui à la seconde partie de l'entretien avec Stanislas Pierret, actuellement directeur de l'Institut français de Bucarest, mais qui nous a raconté comment, au tout début de sa carrière diplomatique, il s'était intégré dans les réseaux dissidents tchécoslovaques. Stanislas Pierret continue donc de nous exposer son parcours professionnel en commençons par les événements de 1989 à Prague. Stanislas Pierret est au micro d'Anne Clairveluire.
Panorama.
Panorama.
Est-ce que vous étiez à Prague lors des événements de 89 ou comment vous avez suivi les événements?
C'est très intéressant parce que j'avais quitté Prague, j'avais quitté la République tchèque. Je crois que c'était en janvier ou en février. Et j'étais allé à Belle-Île, j'avais loué une petite jardinerie pour faire de la peinture. Et donc je voulais me mettre vraiment à la peinture pendant 6 mois, faire que ça, etc. J'ai beaucoup peint, j'ai un peu écrit, j'ai beaucoup peint pendant quelques mois. Je suis revenu à Paris. Et quand, en octobre, les premiers événements sont arrivés à Prague, c'est la mort de Schmitt qui a été annoncée par Peter Hull, j'ai pris mon téléphone, je suis rentré, j'ai appelé un ami tchèque, je lui ai dit que je viendrai. Et le lendemain, j'étais à Paris, je voyais Amalric, qui était à l'époque directeur des pages du Monde, des pages du Monde étrangers. Et je lui ai vraiment fait un coup, alors vraiment au culot. Je lui ai dit, écoutez, je suis l'homme de la situation, il faut absolument que je parte là-bas. C'est en train de... Les choses sont en train d'arriver. Comprenez, j'ai passé 2 ans là-bas, je suis l'homme de la situation, je parle tchèque, je parle pas très très bien le tchèque, mais je me débrouille. Je peux partir comme correspondant pour le Monde. Et le père Amalric, finalement m'a fait confiance. C'est-à-dire qu'il m'a dit, écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux vous payer votre billet de train. Il m'a payé mon billet de train, qui était à l'époque, je me souviens, 900 francs, c'était 900 francs. Il m'a donné 900 francs, et donc j'ai acheté mon billet de train, et la ville était fermée quand même, la ville était fermée, c'était vraiment le tout début de la Révolution. Et Amalric m'a fait confiance, donc j'ai pu partir et accueillir Sylvie Goffman, qui, elle, a couvert. Sylvie Goffman, donc correspondante du Monde à cette époque pour toute l'Europe centrale, elle a pu couvrir toute la Révolution. Donc j'ai fait deux papiers. J'ai fait un papier sur les étudiants, je me souviens d'un papier qui passait en première page, dont bien sûr mes parents étaient très fiers, etc., sur la Révolution de velours, sur la Révolution des étudiants. Voilà. C'était le début un peu. Et donc je suis resté un mois là. Je suis resté un mois à Prague. Donc j'étais un petit peu spectateur engagé. J'allais régulièrement au siège de l'Obszenski Forum, du Forum civique. Et donc là, j'ai revu les copains dissidents, etc., qui m'ont demandé de les accompagner en province pour un peu rassurer la population. Parce qu'à l'époque, vraiment, il y avait Prague et la province. L'information était pas claire du tout. Et je veux dire que il y avait pas mal de désinformations sur Prague. Donc on est allé parler en fait aux ouvriers. J'ai fait des harangues comme ça devant des ouvriers en tchèque plusieurs fois. Je suis parti avec des acteurs, avec des intellectuels, avec des gens de la charte, donc parler un petit peu aux gens en province et les rassurer un peu sur ce qui se passait à Prague, parce que finalement la vie était relativement tranquille. Je vois ça un mois, alors c'est quand même intéressant ça. Un épisode intéressant. L'ambassadeur de Jour Humain, il avait réuni, je me souviens, Yannakakis, Glucksmann, je crois que Glucksmann était, et plusieurs intellectuels. Et en fait, la grande question était de savoir qui allait, bien sûr, succéder, comment dirais-je, au Yakesh et compagnie. Et bien sûr, les chancelleries parlaient à l'époque, c'était au mois d'octobre, parlaient du retour de Bjek. Et j'avais assisté, moi, sur l'esplanade, donc à la fameux retour de Dubček. Et c'était assez extraordinaire, parce que en fait, là j'ai compris qu'il ne serait jamais président.
Pourquoi ?
Parce qu'il avait un discours qui était complètement, qui n'était plus en phase avec, il parlait de Zlata Praha, il avait des images, comment dirais-je, complètement, comment dirais-je, obsolètes, et qui ne correspondaient pas vraiment à, que les pas en fait au mouvement et au mouvement qui était en train d'émerger. Et bien sûr, certains intellectuels commençaient déjà à lancer le nom de Václav Havel. Quand on m'a interrogé, puisque j'étais convoqué un jour par l'ambassadeur Humann, et devant donc Buxman, et j'ai dit, mais non, je pense que vous vous trompez, ça ne sera pas Dubček, ce sera Havel. Donc c'était 2 mois avant l'élection de Havel, et voilà, donc c'était un peu mon heure de gloire. J'avais un peu anticipé les choses. Maintenant, bon, c'est vrai que Dubček était un homme âgé, un homme sans doute vénéré, respecté, mais plus en phase du tout avec la société des années de la fin des années 80.
Vous avez exercé la fonction de directeur de l'Institut français de Prague et vous êtes aujourd'hui directeur de l'Institut français de Bucarest. Alors, comment vous pouvez un petit peu comparer les deux expériences que vous avez eues à ce poste ?
Alors, d'abord, donc après la révolution de velours, je séjournais à Prague pendant un mois et demi, je fais un peu le tour du pays, justement pour parler un peu aux gens, etc. Et ensuite, je suis rentré en France. Et le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, voulait monter une fondation avec son épouse en direction des jeunes des pays, justement libérés du communisme. Les pays, j'ai été choisi par Mme Chirac pour, en fait, monter cette association, contre l'avis d'ailleurs des gens du cabinet qui voulaient nommer à ce poste un vieil ambassadeur, etc. Donc Mme Chirac m'a fait confiance, alors que je n'étais pas du tout encarté, je n'étais pas encarté au RPR, etc. M'a fait confiance. Et donc j'ai pu monter cette association Le Pont Neuf, j'ai pu m'occuper pendant 7 ans. On a travaillé avec tous les pays d'Europe centrale, avec la Russie quand le système s'est libéralisé en 93, et puis aussi un peu dans les pays des Balkans au moment de la guerre en Bosnie. Alors, on a fait pas mal de choses, on a organisé des expositions d'artistes pendant la guerre. Mme Chirac n'était pas trop pour d'ailleurs, mais bon, on avait réussi quand même à faire des choses intéressantes à ce moment-là. Grâce à l'armée, je me souviens, c'était des avions, des Hercules qui acheminaient les œuvres des artistes bosniaques de Sarajevo. Voilà. Et donc après ça, le maire de Paris accède à la magistrature suprême, devient président de la République, et voilà, je pose la question de confiance à Mme Chirac, je lui demande si elle veut transformer son association en grosse fondation, et elle me répond qu'elle n'est pas née à Mitterrand, qu'elle ne veut pas créer comment dirais-je, une fondation type comment dirais-je, France Liberté. Et donc on me nomme directeur d'institut à Prague. Voilà, directeur d'institut et conseiller culturel. Donc je reviens à Prague comme conseiller culturel. Alors bien sûr, toutes les portes s'ouvrent, il y a énormément de contacts avec tout le monde. Ça a été passionnant, c'était très intéressant parce qu'il y avait énormément de choses à faire dans tous les domaines, hein, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine de la gouvernance, énormément de choses. Je rempile à Budapest. Là, je me mets au Hongrois. Je passe 4 ans à Budapest dans les mêmes fonctions. Et ensuite, je pars pour la Turquie. Donc, j'occupe aussi les mêmes fonctions de directeur d'institut et de conseiller culturel. Un moment extrêmement compliqué, puisque bon, la relation, comment dirais-je, avec les Turcs se complique. Changement de président de la République. Voilà, et donc après ma mission en Turquie, eh bien je suis, euh, je m'occupe de la saison de la Turquie en France, qui n'a pas été non plus une mission très facile. Voilà, compte tenu du climat politique tendu de l'époque. Et après la saison de la Turquie, eh bien le ministère décide de m'envoyer en Roumanie. Donc si vous voulez, c'est assez cohérent comme parcours. Hein, c'est assez cohérent. Il me restait, je connaissais bien l'Europe centrale, je connais assez bien la Turquie et la Russie. Il me manquait en fait cet état, d'Europe orientale qui était extrêmement intéressant, qui est un état extrêmement riche. Les paysages sont magnifiques et surtout c'est un pays qui est extrêmement divers. Vous avez c'est une mosaïque de peuples, la Roumanie. Vous avez des Roumains, bien sûr, mais vous avez une minorité hongroise importante, vous avez une minorité russe de Lipovène dans le Danube, vous avez des Tchèques dans le Banat, vous avez des Slovaques dans le Banat, vous avez donc, je peux parler toutes les langues dans ce pays que j'ai apprises au fur et à mesure de mes pérégrinations. Et en fait, c'est le pays qui manquait, quoi, pour finir le puzzle, si vous voulez. Donc, c'est un pays extraordinaire.
C'était donc Stanislas Pierret, l'actuel directeur de l'Institut français de Bucarest. Stanislas Pierret répondait aux questions d'Anne-Claire Veluire et nous a raconté comment, au tout début de sa carrière diplomatique, il s'était intégré dans les réseaux dissidents tchécoslovaques. C'est aussi la fin du programme d'actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt.